Tata boom!
Bonjour, bonjour et bienvenue dans la 64e édition de Tatapoum. Tatapoum, une émission où on écoute et où on débat autour de l'actualité plus ou moins fraîche, du punk, du rock, du garage et autres musiques bruyantes. Avec ce soir la garde nationale de la critique rock, puisqu'on retrouvera autour des boutons et dans le bocal Guillaume, Mathieu, Cédric, Héloïse, Marion et Bibi. Et ce soir, on ne parlera pas de Viagra Boys, dont le nouvel album Viagra Boys était pourtant très prometteur. Mais ils ont été virés par Guillaume, qui a décidé d'édicter une nouvelle règle. Si tu fais le zénith, t'es trop gros, tu pues, t'es corrompu par le système, donc tu dégages. Donc, exit Viagra Boys, nous irons tout de même à Dublin avec Murder Capital, à Paris avec Miss France, à Brooklyn avec Pyrex, et nous terminerons au Vatican avec The Austerity Programme. On commence avec un premier extrait de Murder Capital, et c'est Mathieu qui nous a sélectionné cet extrait. Voilà, c'était Moonshot, un premier extrait de Murder Capital qui vient de sortir un album qui s'appelle Blindness, et c'est Mathieu qui nous en parle.
Oui, alors avant de parler de Murder Capital, je voudrais quand même remercier Guillaume de nous avoir évité les Viagra Boys. Ça, franchement, moi j'apprécie. Voilà, The Murder Capital, en fait, en début 2023, Tatapoum avait épluché l'album Gigi's Recovery. Arnaud avait adoré, résultat, il est pas là aujourd'hui. Je suppose que Guillaume, qui avait fait semblant d'adorer le précédent, il m'a laissé la présentation de ce Blindness pour vérifier si j'étais capable de changer d'avis sur un groupe. Et parce que, enfin, faut savoir, à l'époque, même Héloïse avait détesté, quand même. C'est une référence. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce troisième album? Eh bien, on retrouve le quintet de Dublin avec le même chanteur. Et vous venez d'entendre le premier titre, Moonshot, qui fait presque illusion, en mode noise, pas inintéressant. Mais très très vite, on retrouve des morceaux qui sont globalement lents, pas inaudible, hein, mais totalement inintéressant. Il y a bien quelques passages sur Born into the Fight ou The Fall ou Death of a Giant qu'on entendra tout à l'heure, qui peuvent encore passer, mais ils sont très vite oubliés à l'écoute de Swallow ou pire du Love of Country, qui est aussi chiant que son titre l'annonce, évidemment. Alors c'est pas que ce soit totalement insupportable. C'est juste que, je l'ai déjà dit, c'est sans intérêt. Et c'est sans doute toujours réservé aux bobos et aux abonnés de Télérama.
Oh la vanne. Oh là là.
Bon, c'est bien Télérama.
Bon, écoute-moi, ce groupe qui a 10 ans maintenant, qui est un peu resté dans l'ombre de Fontaine d'ici. Eux, ils ont pas pris le virage un peu pop et leur troisième album, pour moi, est vraiment une réussite. Ce qui m'a toujours marqué chez Murder Capital, c'est leur capacité à créer de la tension, à installer une ambiance inquiète. Un peu ambiance, les mains moites, les pieds qui collent au sol. Ils sont capables de faire monter la pression, un peu comme vous, quand vous vous retrouvez à table en famille, à expliquer le wokisme à votre vieil oncle raciste, quoi. Et je trouve cette tension qu'ils arrivent à mettre, ils savent le faire, ils continuent à le faire dans cet album. Jusque là, leur titre avait un peu du mal à décoller au-delà de cette tension, à nous embarquer et à faire des morceaux finalement totalement aboutis, comme s'ils savaient pas quoi en faire de cette inquiétude qu'ils avaient réussi à installer. Comment l'amener, comment la faire exploser. Là, moi, je trouve qu'il y a quelques belles réussites. Un morceau que t'as pas cité, Mathieu, il y a Can't Pretend to Know. C'était le titre qu'ils avaient sorti en prévision de l'album, qui moi je trouve c'est vraiment une perle. C'est super bien fait. Et voilà, moi je trouve ça assez solide. C'est un bel album. Ça marque un indéniable progrès, un plus grand aboutissement de cet album que des précédents. Alors, c'est pas non plus avec ça qu'on va les retrouver au Zénith, donc on risque de continuer à parler d'eux, mais ça progresse et c'est bon. Héloïse ?
Eh ben, je dirais que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et contrairement à ce que j'avais pu ressentir à l'écoute du précédent, c'est un album que j'ai trouvé incroyablement travaillé, presque tout autant que la notoriété du groupe que la presse spécialisée classe assez pompeusement aux côtés des grosses machines de la scène post-punk dublinoise telles que Idols et Fontaine d'ici. Il en résulte un troisième disque qui était sans conteste attendu au tournant et des arrangements qui s'en ressentent. Du morceau d'ouverture Moonshot à l'ambiance lourde et pesante à celui qui lui succède Words Lost Meaning, emmené par une basse omniprésente en passant par Love of Country que j'ai, contrairement à Mathieu, assez apprécié et qui se présente comme une balade critique du patriotisme. Blindness est biberonné par des influences multiples, nourri de l'éclatement géographique des membres du groupe entre Berlin, Letterkenny, le Donegal et Londres. Ils sont en faire un disque d'une incroyable richesse, travaillée à l'extrême, que j'ai pour ma part trouvé très agréablement écoutable.
Guillaume, écoutable ?
Ah oui, tout à fait. Enfin, c'est surtout plein d'associations possibles, hein. Irlandais, post-punk, introspectif, The Murder Capital ne peut manquer de souffrir de la comparaison avec leurs congénères acclamés que sont Fontaine d'ici et Idols, tant leur approche musicale les associe par leur rock emphatique, et pour autant ils n'en ont rien à se sortir inférieur à eux. Leur album possède assez de qualité pour les considérer avec attention et respect. Car plus lyrique, moins sombre, assumant davantage une filiation avec l'indie pop, c'est sans doute le problème de Mathieu, l'indie pop anglaise, The Murder Capital sait se faire apprécier, notamment par sa capacité à enchaîner les titres d'une parfaite tenue, effectivement. Leur sens de la composition est indéniable, les morceaux s'enchaînent sans fausse note avec un beau travail d'accompagnement instrumental. C'est clair, élégant, compréhensif. Le disque est une réussite de ce point de vue. Leur côté, entre guillemets, plus joyeux, rend aussi l'accommodement plus aisé. On est toujours dans ce post-punk où s'expriment les sentiments torturés et emplis de chagrin qui caractérisent la scène irlando-anglaise actuelle, hein, puisqu'on peut aussi rajouter les Guillaband. Mais ici, les emprunts à la scène anglaise des années 2000 rapprochent l'atmosphère générale du disque des compositions de l'indie pop à la Blur, notamment sur A Distant Life ou Radiohead carrément, sur Born into the Fight. Si cette influence est sensible, elle n'est cependant pas prépondérante. The Murder Capital demeure fermement dans une filiation post-punk avec sans doute une touche plus déclamatoire et mélodique par rapport aux autres déjà cités. Et comme sur le superbe That Feeling, meilleur morceau de l'album à mon goût, lente envolée lyrique portée par le chant de James McGovern. Donc Blindless est un album solide de bout en bout et tout à fait convaincu.
Eh ben super, on vous propose donc d'en écouter un deuxième extrait avec Death of a Giant.
Solemnly in grief, while the Liffey leaves its sleep. Young band marching slowly on their feet. The chemist sings to the whole street, while the shining moves beneath. Yeah. It was the death of a giant. The death of a giant. Black horse with black feathers on their head marked the permanence of death as the Liffey moved it wet. Young band marching slowly on their feet. The chemist sings the songs we seek while the shiny starts to weep. Yeah. The death of a giant, the death of a giant. It was the death of a giant, the death of a giant.
Et ben voilà, c'était The Murder Capital et on va écouter un premier extrait de Miss France. Miss France qui sort un album qui s'appelle sobrement 7. Cédric nous a sélectionné un premier extrait, c'est De plein fouet. Eh bien, Miss France, c'est toi, Cédric.
Et oui, donc on retrouve Miss France avec l'album 7. Et pourquoi faire compliqué, puisque l'album 7, c'est la septième production du groupe, ou plutôt autoproduction dans ce cas, de ce groupe parisien de punk hardcore hein, qui écume les scènes depuis plus de 10 ans. Alors celui-ci est un EP de 6 titres, très joliment présenté d'ailleurs, avec des figures géométriques noires sur fond jaune. Et on retrouve à la batterie Jérémy, qu'on peut aussi lire dans Télérama, à la basse Jérôme, qui est aussi consultant, Martin, qui est au chant et bibliothécaire à Sciences Po, Antoine, nouveau venu à la guitare, à la place de Thibaut, que l'on retrouvait dans l'émission Quotidien, donc on a affaire ici au Lumpen Prolétariat. Ce qui est un peu dégueulasse de dire ça, parce que vraiment je trouve que c'est un super groupe, vraiment génial, français, parisien. Tout est travaillé sur cet album, et en particulier sur cet album qui est produit par Henri Darmancourt, hein, qu'on connaît aussi pour différentes productions de cinéma, de participation à des groupes et de productions. La production est donc plus soignée cette fois, même si on retrouve quand même à certains moments un aspect un peu live dans l'album. Mais ce travail permet aussi de donner des atmosphères qui cassent un peu un rythme linéaire hardcore, comme on vient de l'entendre sur le titre précédent. Mais de manière générale, quand ça envoie pas qu'à moitié. On retrouve vraiment le bruit et la fureur sur l'ensemble de l'album. Et comme ils prennent soin de nous, ils prennent soin aussi de nous accompagner avec une descente un peu tranquillou à la fin du disque sur le titre « Le nouveau tube de l'été ». Alors le groupe doit évidemment beaucoup à tous les instruments, mais aussi à cette voix singulière de Martin, qu'on pourrait dire en partie sensuelle. Enfin, moi je trouve, hein. Moi je trouve. C'est-à-dire pas brutal, pas métal, quoi, en gros, qu'on retrouve parfois sur le hardcore, et qu'on reconnaît assez facilement, et avec des textes très travaillés, scandés, avec la rage qu'il faut, et qu'on peut retrouver ici sur Bandcam. Les phrases sont courtes et aiguisées comme des lames de rasoir. Alors sur scène, ça dépote, et on peut aussi saluer l'attitude d'un groupe de mecs, qui est assez parfaite pour mettre à l'écart les gros bourrins dans les pogos, ou encore à vendre à prix libre ses albums. Donc bref, je trouve ça vraiment excellent, à la fois sur le fond et la forme.
Guillaume, même enthousiasme ?
Ah bah, il y a du mieux, on va dire. Il y a du mieux, c'est incontestablement par rapport à ce que vous me faites subir habituellement. Un gain qualitatif, hein, c'est ce Miss France. On commence à s'approcher de standards acceptables, je dirais. Mais ne nous emballons pas. Hein. Le gap demeure toujours avec ce qu'on est en droit d'attendre pour apposer l'appellation « bon disque » à celui-ci, et que toute critique pourtant honnête se devrait de convenir. Car malheureusement... La sympathique cohorte autour de cette table se refuse à reconnaître cela, et cela s'explique sans doute par l'habituelle complaisance, copinage, mauvaise foi ou discrimination positive dont la programmation de cette émission fait preuve dès lors qu'il s'agit d'un groupe français. Cette obligeance coupable se dévoile déjà par le fait qu'on a affaire ici à un EP, 6 titres, dont 3 titres font moins de 2 minutes, plutôt qu'à un véritable album. Comment le justifier alors qu'on n'en retient habituellement jamais, sinon par les passe-droits dont bénéficie le patriotisme franchouillard de cette émission censément classée à gauche. Mais surtout, chacun et chacune pourra mesurer cette prévalence incompréhensible à tout esprit empli d'intégrité en comparant le niveau musical qui différencie nos champions hexagonaux de Miss France d'avec l'insignifiant et pourtant déjà largement au-dessus groupe punk Pyrex dont on parlera ensuite. Mais dès lors, qu'est-ce qui explique que je me montre moins acerbe qu'à l'accoutumée et que je consente à épargner quelque peu ce Miss France? Si le groupe n'échappe pas aux habituels et rédhibitoires conscients tradipunk de nos groupes énervés hexagonaux, autrement dit, d'une instrumentation toujours aussi pauvre, la batterie et la guitare plombant toute l'ambition dont fait pourtant montre le groupe, pourtant, fait cependant preuve de deux grosses qualités. un appréciable travail musical sur les intros et les outros. Rien que pour cela, il s'installe au-dessus du lot de la production française. Et l'original et percutant chant de Martin Sec, absorbant au plus qu'il est possible les syllabes, il en dénature la résonance et intrigue l'auditeur qui cherche à en saisir le sens. De ce point de vue-là, c'est remarquable. Malheureusement, je demeurerai ferme sur ce point tant que Miss France demeurera pourvu d'un jeu de guitare et d'un batteur aussi limité, je demeurerai, encore une fois, pardon, toujours circonspect vis-à-vis d'eux.
Ah là là, Guillaume, à force de vouloir échapper au repli nationaliste, tu t'égares sur des chemins étonnants. Mais de manière générale, hein, dans cette émission, c'est vrai que les Français trouvent pas grâce, n'arrivent pas à faire l'unanimité autour de la table. Je pense que c'est une de tes grandes victoires, Guillaume, que de semer le doute dans nos esprits sur finalement ce qu'est notre scène locale, quoi. C'est eux qu'on peut voir. Bon, alors c'est vrai que des fois, ils ont été aidés par la médiocrité des groupes, mais franchement, voilà. Alors, moi, Miss France, je suis parti avec un a priori hyper positif sur eux parce qu'ils m'ont offert des bières. Alors du coup c'est quand même un truc, on buvait des coups avec Cédric et Guillaume, d'ailleurs vous étiez là les gars, et on n'avait plus rien à boire. Alors je suis descendu en bas, il y avait Constroy qui enregistrait son émission, et je dis vous auriez pas des bières, les mecs ils nous ont donné des bières. Donc du coup je me suis dit, je leur dis j'adore ce que vous faites, j'ai pas dit si c'était la musique ou les bières, mais et donc voilà, donc du coup j'ai écouté, et franchement Guillaume, ça va. Moi je trouve que d'abord le chanteur il braille avec un certain talent, parce que moi j'arrive à comprendre une grande partie des paroles, ce qui est souvent pas le cas dans ce style là. Et puis je trouve qu'il y a un vrai travail sur les paroles. Je trouve qu'ils arrivent quand même en étant bourrin comme ça à dire deux trois trucs. Je trouve que c'est assez bien écrit. Voilà, moi je trouve que le premier titre qu'on a entendu, le premier titre de l'album là, je trouve que c'est presque un tube, hein, pour du hardcore, où il nous explique qu'on connaît jamais la longueur de la mèche. Voilà, moi je trouve, bon, ça reste comme le style l'exige, un peu viriliste, mais moi je trouve ça maîtrisé, construit. Et alors il y a effectivement un truc que je trouve très réussi dans l'album aussi, c'est qu'ils ont pas fait trop long, quoi, je veux dire, 6 titres. Non mais t'as pas le temps de buter sur les limites de l'exercice. Et que je trouve qu'il y a plein d'albums qui auraient gagné à retirer quelques titres pour que on reste dans le plaisir sans se rendre compte qu'à un moment donné ça se répète ou c'est limité. Et là, je vois pas les limites dans un album aussi court. Bon, bref. Mathieu. Ouais, on va te mettre du micro.
C'est à moi directement. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Pierre. Il y a certains albums, il faudrait les limiter. Par exemple, The Murder Capital, on aurait limité au premier morceau, ça suffisait largement. Oui, on peut être d'accord. Cédric a un peu déjà tout expliqué. C'est le premier. Alors moi, j'ai tendance à parler de EP quand même. C'est le premier EP avec Antoine à la guitare. Je trouve qu'il s'est tout à fait inséré à la place de Thibaut. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de changements au fil des années. Hein. Si on prend les 7 ou 7 et demi, parce qu'il y a eu un EP intermédiaire qui ont défilé. Voilà. On retrouve le hardcore qui est assez propre au groupe, sans doute effectivement grâce à la voix de Martin. Donc ce son, moi je le trouve plutôt efficace. Les paroles, évidemment, et heureusement je dirais, elles demeurent plutôt pessimistes, hein, parce que j'aurais du mal à être optimiste dans la période actuelle. Et je trouve que il y a effectivement des morceaux comme De Plein Fouet qui sont des petits tubes. Enfin, j'ai dit petits tubes. Hein, c'est pas que j'ai mangé toutes les syllabes pour dire que je titube. Ça n'a rien à voir. Et pour ceux qui ont envie de les voir sur scène, j'en profite. Ils seront à la Ferme Électrique le 5 juillet prochain. Donc c'est un petit festival sympa du côté de Tournan-en-Brie. Mais en tout cas, Miss France, oui.
Héloïse.
Ah ben forcément, j'ai adoré. Étant observé que Miss France est l'un de mes groupes préférés et que ce n'est certainement pas 7 qui me fera changer d'avis. Et ce que j'apprécie particulièrement chez eux, c'est qu'ils sont à côté de la scène française tout en ayant les pieds dedans. Trop punk pour le commun des mortels, mais pas assez hardcore pour les bonhommes, se positionnant après le punk sans pour autant être post-punk. En bref, Miss France, c'est un peu ce que l'on pourrait appeler la nouvelle vague, celle qui fait éclater les boîtes dans lesquelles on nous enferme tout en conservant de solides influences. Et cela donne ainsi 7, des sonorités hardcore au service de textes critiques qui causent pêle-mêle de riches, de masques racistes agresseurs. Imagine Miss France représentant la France à l'Eurovision ou dressant un constat social glaçant de notre époque à travers une comptine déprimante faite de jeux de mots enfantins façon cadavreski. Des morceaux techniquement plus complexes que dans le hardcore classique qui s'émancipe de la limite fatidique des 1 minute 30 bien qu'il reste court pour explorer l'ambiance à grand renfort d'arrangement. Et au final, j'ai trouvé que 7 est un véritable petit bijou.
Eh ben, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de l'album de Miss France, c'est Air France. Voilà, ça c'était Miss France. On passe à l'album suivant. L'album suivant, c'est Body, que vient de sortir le groupe Pyrex. Héloïse nous a sélectionné un premier extrait. C'est Nerve Ends. Ça, c'était Pyrex, et c'est Héloïse qui nous en parle.
Alors, sur Pyrex, je ne saurais malheureusement vous dire grand-chose, le groupe étant particulièrement pusillanime à l'égard de sa biographie, si ce n'est qu'ils viennent de Brooklyn, et qu'après un premier EP éponyme sorti en 2023, ils reviennent avec leur premier album, Body, sorti auprès du fabuleux label Total Punk Records, qui figure parmi les principales sources d'inspiration de Tata Poum. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela tabasse. 16 minutes de sonorité primitive et brute, explorant les confins d'un anatomie humaine en général et de son système auditif en particulier, déformant et malmenant pour notre plus grand plaisir un style musical dont l'on croyait tout connaître, le hardcore, soit la quintessence du punk, sa substantifique moelle. À cette fin, Body explore le champ lexical de l'anatomie, vertèbres, protéines, terminaisons nerveuses ou encore coma, à grand renfort de sonorités sèches, musclées et agressives, de distorsions et de martèlements frénétiques de batterie, dont le rythme soutenu confère parfois au morceau un aspect robotique. À cela s'ajoute une superbe prestation vocale, invariablement gravée dans la tessiture du beuglement. Il en résulte un disque catharsis, d'une bruyance extrême et d'une énergie communicative que j'ai pour ma part trouvé exquis. En bref, la bande-son parfaite pour s'imaginer boxer Retailleau ou coller un pain d'Hermanin.
Hop, oh, pardon, Cédric, à toi.
Oui, bah, je suis d'accord, hein. On a envie de dire plus c'est court, plus c'est bon, quoi. D'ailleurs, Guillaume, tu nous as fait un fromage pour l'autre album qui durait 15 minutes, celui-ci en fait 16, hein,
finalement. Oui, mais il a 8 titres, donc on échappe au format EP.
Comptable.
Voilà. Donc là, ici, on retrouve ce côté hardcore punk sombre, anxiogène à souhait. Mathieu, tu disais que tu aimais bien le versant pessimiste du précédent. J'ai l'impression qu'on va crescendo dans cette émission et il faut tout de suite dire aux suicidaires de s'en aller après ce groupe, parce que le dernier, c'est un feu d'artifice de ce point de vue-là. Alors, on retrouve un petit côté Nag, donc dont on a déjà parlé ici, qui est un super groupe également, mais en plus rageux et sans baisse de régime ici. On fait pas du tout dans la fioriture. Il y a pas de gras dans l'album. Mais l'album impressionne par la rigueur et le calibrage, hein, c'est tranchant, énergique, ils martyrisent leurs instruments et la voix, mais tout ça sous contrôle. La guitare est toujours aussi puissante dans le vacarme, mais elle propose aussi des riffs avec des lignes de fuite qui sont vraiment utiles sur l'album. J'avais déjà beaucoup apprécié le précédent LP en 2023. Et celui-ci poursuit la route en adoptant un ton un peu plus rugueux et plus radical encore. Vraiment parfait quand on a peu de temps pour se vider la tête et mettre au loin ses frustrations. Un groupe d'urgence à écouter, d'urgence également.
Guillaume.
Ouais, bah, on est revenu aux choses sérieuses, on pourrait dire. Donc voici un album bourré de qualité, tendu de bout en bout, parfaitement punk dans l'esprit. Je veux dire que ça fait le boulot comme il faut et comme il doit être. On est en droit de l'attendre. Lorsqu'on parle de punk hardcore, il n'y a pas grand chose à leur reprocher parce qu'ils savent y faire. L'instrumentation fait preuve de solidité dans ses enchaînements et contient suffisamment de disparités pour convaincre. Et surtout, la touche hardcore qui s'ajoute à la base punk apporte toute la saveur à ces 8 titres qui musicalement sonnent impeccables. Les distorsions saturées se marient très bien avec le martèlement sans faille de la batterie. Et cette voix légèrement éraillée du chanteur est un vrai plus aussi, car elle apporte par sa texture le pendant malsain à la déflagration sonore des instruments. Donc Pyrex ne révolutionne en rien le genre, mais assure l'essentiel avec un disque de très bon niveau sur tout l'ensemble.
Ouais, bah, je suis d'accord avec vous. Hein. Alors c'est encore une fois un disque qui vient de chez Total Punk. Héloïse l'a évoqué. C'est assez incroyable quand même. C'est un label de qualité, quoi. C'est quand même vachement mieux que Label Rouge pour la viande, quoi. Enfin, Label Rouge, ça dit juste que l'animal il était vivant avant qu'on le tue. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un label tout bidon. Alors que Total Punk, ça te dit que le groupe que tu vas écouter a été sélectionné avec soin parmi ce qui te fait plus bourrin. Chez eux, j'ai regardé, il y a Alien Nose Job, il y a Cherry Chicks, voilà. Mais et toujours, c'est toujours des trucs assez carrés finalement. Il y a une sorte quand même d'exigence. Et là, ça marche. C'est un pur moment de violence. Évidemment, c'est sans surprise, ça ne réinvente rien, tu l'as dit, mais c'est concis, c'est cash, c'est, c'est brutal et puis c'est excessivement bien fait quoi. Je veux dire, la voix rageuse, la batterie débridée, les guitares assaillantes. Guitare assaillante, je sais pas, ça veut pas dire grand chose, mais je trouve l'image assez assez juste. Et je trouve que ça décrasse, voilà, un peu comme comme quand on prend une douche, quand on boit un verre d'eau et qu'on mange un bout de pain entre deux dégustations de vin, et voilà, ça nettoie. Après, on peut retourner écouter du punk d'intello, tout ça, on est à nouveau frais et dispo, quoi. Voilà, donc non, vraiment, je suis d'accord avec vous, une grande réussite que cet album de Pyrex. Mathieu.
C'est encore du Total Punk Records, hein, ouais. tu l'as dit. Alors c'est vrai qu'ils ont Cut Piece, Alien Nose Job, qui n'avait pas forcément fait l'unanimité dans Tatapoum, mais aussi RMFC, Sick Thoughts, donc c'est encore de l'excellente qualité entre punk hardcore. Et moi, parfois, j'entends un petit poil de post-punk, mais c'est sans doute par atavisme. On ne s'ennuie pas une seconde. Alors, vous me direz, oui, ça dure qu'un quart d'heure, 16 minutes, mais ça peut arriver. Déjà, on peut sur 3 minutes, on peut s'ennuyer, donc sur un quart d'heure, pourquoi pas, mais là, pas du tout. Je trouve que c'est plutôt varié, en plus, c'est pas un album monolithique, et en fait, ça fait sacrément envie. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on aura l'occasion de les voir?
Eh ben j'ai rien vu, hein,
moi non plus.
Tourner en Europe, mais bon ben écoutez, face à ce déluge d'applaudissements, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de Pyrex avec Cones. C'était donc Pyrex et on vous propose de changer d'ambiance ou pas avec The Austerity Program. Et Guillaume nous a sélectionné un premier extrait, ça s'appelle Judge. Ah, Judge 19.
Men come up from town, they're drunk and they're bleeding. as your claim. Vile dog, your wretched lies will end, and I will meet you at the grave.
Et voilà, c'était Austerity Programme, très beau nom de groupe d'ailleurs, avec son album Bible Songs 2, qui fait suite à Bible Songs 1, et c'est Guillaume qui nous en parle.
Oui, la double élection de Donald Trump comme président des États-Unis n'a pas manqué de surprendre en Europe, révélant l'écart de plus en plus sensible de part et d'autre de l'Atlantique en termes de valeurs et de vision du monde. Les explications sont nombreuses, mais il en est une qui nous concerne au premier chef en tant qu'amateur de musique rock, la place donnée dans les deux sociétés à la religion dans le champ culturel et social. Pour qui a l'habitude de se pencher sur les paroles de ses groupes préférés, ne manquera pas de le constater. L'omniprésence des thèmes religieux, des références à la Bible, les titres explicitement à rapport avec le christianisme dans nombre de groupes US est omniprésente, y compris parmi ceux qu'on apprécie le plus pour leur engagement à gauche, alors qu'ils ont pratiquement disparu dans les contrées européennes, si ce n'est sous la forme de sarcasme à leur égard. C'est pourquoi la démarche entamée par The Austerity Program ne peut manquer d'interroger ici, puisqu'il s'agit littéralement d'adapter des passages entiers de la Bible à la sauce hardcore. The Austerity Program est du reste un groupe tout à fait intrigant, tout aussi intrigant que leur entreprise. Formé au début des années 2000, le groupe se compose de deux amis new-yorkais qui se sont lancés à partir de zéro, puisqu'ils n'ont jamais pris le temps d'apprendre que par eux-mêmes leur instrument. Tad s'est mis à la basse, Justin à la guitare et au chant, et successivement, depuis 2003, ils ont fait paraître quelques EP et albums. Leur productivité a toujours été faible, mais régulière. Dès le départ, elle était dans une démarche hardcore, conceptuelle, expérimentale, c'est selon. Ainsi, après le précédent album Bible Song 1 en 2019, voici Bible Songs 2, sorti chez leur propre label. Hein, tant qu'à faire, ils ont aussi créé leur propre label, Control Burn Records, dont l'intitulé donne effectivement la teneur « chant biblique ». Mais à y réfléchir, quoi de plus punk que ce programme mélangeant expression de leurs opinions, provocation, voire profanation, on le sait tous, le rock et la musique de Satan, et radicalisme artistique. En tous les cas, cette omniprésence du religieux est quelque chose avec laquelle on est depuis longtemps convenu de s'accommoder pour ne retenir que ce qui en est fait et laisser le talent primer. Et de talent, les New-Yorkais n'en manquent pas, puisque la gageure est largement convaincante, tout d'abord par la capacité de Justin Foley à s'emparer des textes bibliques pour les retranscrire par son chant habité de prêcheur imprécateur, par le vrombissement incessant de la boîte à rythme, les lourdeurs monotones de la basse et les crissements sans fin de la guitare. Ce déploiement d'un son hardcore basé sur la répétition assourdissante de dissonances monocordes les envolées de Foley constituent le cœur de leur composition. L'album est empli de ces déflagrations hypnotiques qui font tour à tour songer aux meilleurs albums des Swans pour le côté martial des percussions qu'aux premiers albums de Nick Cave pour l'imprécation du chant, laissant éclater leur courroux envers le monde tel qu'il va. Par le choix de paroles inspirantes de la Bible, The Austerity Program nous livre un album dense et original, et qui constitue une très très belle découverte.
Ouais, c'est vrai que l'idée est assez marrante que de reprendre le pire de la Bible pour en faire des disques, les histoires les plus noires, les plus glauques, les plus sanguignolantes. On les sélectionne dans la Bible et puis on le fait. Alors, c'est vrai que l'idée est certainement plus marrante que la réalisation, parce que il y a quelque chose d'assez inconfortable à l'écoute de cet album. Je pense que c'est évidemment cherché, surtout à la première écoute, quand on sait pas où on met les pieds. Il y a quelque chose d'un peu d'assez agressif dans l'interprétation et dans ce côté martial de la batterie, tout ça. Dernièrement, je suis allé à l'église pour un enterrement. J'ai vécu assez mal le fait, enfin le deuil, mais aussi le fait de me retrouver dans une église. J'étais assez triste et les conneries que racontait le mec en robe pour moi étaient d'une grande violence. L'espèce de d'évocation de Jésus, de tout ça qui va nous sauver, tout ça, c'était assez pénible. Et je crois que dans ma tête, j'avais l'impression que le type me parlait comme Austerity Programme, quoi, qui braillait des trucs de manière très agressive. Et du coup, c'est, voilà, ça m'a fait penser à ça quand j'ai écouté ce disque. Moi, je suis assez convaincu par la démarche et la réalisation, mais c'est peut-être plus une performance qu'un album que j'irais réécouter. Alors la question à la fin de l'écoute de ce disque, c'est de savoir, est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une dénonciation du religieux, de la place de la religion, une mise en avant du côté gore de sur laquelle s'appuie la morale religieuse, ou est-ce que c'est une version poussée, une version de niche d'un rock chrétien? Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je penche plutôt pour une agression anti-religieuse, un truc moqueur, y compris parce que quand on regarde un peu qui sont les deux gars qui font ce groupe, on voit leur profil. Il y en a un qui travaille à l'université et l'autre qui est permanent syndical. Ouais, bah, tu l'as à la CFDT ou à CFTC. Voilà, donc moi je fais l'hypothèse que c'est plutôt moqueur. Voilà, ton avis, Mathieu?
Alors, mon avis, je pense également que c'est moqueur. Alors, il y a un truc tout à l'heure que t'as dit qui m'a surpris. Tu as dit ça part du pire de la Bible. Mais pour moi, le pire de la Bible, c'est la Bible elle-même, en fait. Hein. Et c'est vrai qu'avoir un album qui se référence par rapport à une secte, moi, ça a tendance à me refroidir. Mais à l'écoute, très très vite, je trouve que la noise du groupe, elle est vraiment totalement addictive. Immersive. Alors moi, j'entends un petit aspect Sonic Youth qui se mêle à des ruptures rythmiques qui sont vraiment efficaces. Moi, j'avais en fait jamais imaginé avant de faire quelques recherches que la rythmique s'appuyait sur une boîte à rythme et non pas sur un vrai batteur. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et en fait, moi, je m'imagine voir le groupe sur scène. Et je me dis, est-ce qu'ils peuvent réussir à transcender autant le public qu'ils le font sur cette version studio? Ça semble utopique, mais moi je tenterais bien l'aventure. Du moment qu'ils filent pas des bibles à l'entrée, ça, j'achèterai ma place.
Ou qu'ils balancent pas de l'eau bénite dans le public.
Ouais, mais j'ai pas peur de brûler, moi, ça, avec l'eau bénite.
Cédric.
Oui, je connaissais pas du tout, hein, avant de préparer cette émission. J'imagine d'ailleurs que je suis pas le seul.
Jamais entendu parler.
Voilà. Et c'est plutôt une belle découverte pour moi. Hein. Je peux pas vraiment dire si c'est original. Je connais pas très bien le genre noise. Je trouve que malgré la lourdeur du projet, c'est quand même assez difficile de faire plus anxiogène que ça. L'album captive par sa radicalité, quoi. En gros. Alors, ouais, c'est difficile de savoir sans doute si c'est du lard ou du cochon. Je suis pas si sûr qu'ils se moquent de la religion. Je pense pas non plus que ce soit des catholiques fervents, mais qu'ils s'appuient sur des textes durs de la religion pour dire autre chose sur le monde d'aujourd'hui. Mais bon, peu importe d'une certaine manière, parce que c'est vraiment l'ambiance générale de liturgie sous amphétamine, hein, qui nous emmène vers des eaux noires souterraines, qui est assez parfaite, ainsi que la maîtrise technique, qui verse un peu vers le bruitisme, mais sans complètement y tomber, parce que ça j'aime pas trop quand c'est complètement expérimental, et là on y verse pas complètement. Alors j'ai écouté du coup le premier volume, qui est un peu moins pesant, mais je trouve du coup que celui-ci est plus abouti. Et le tout est associé à cette voix assez bizarre, un peu americana comme ça au tout début, mais ça tombe, ça verse assez vite dans une voix qui devient hystérique. Alors on le sent au bout de sa vie sur des textes d'une noirceur infinie, pas toujours facile à vivre ou à suivre. Je peux en citer un petits bouts traduits pour ceux qui connaîtraient pas la Bible ni l'anglais, par exemple. Alors, je cite, hein, « Je peux vous dire comment l'histoire va se dérouler. Un soleil brûlant, une mer empoisonnée, une nuit sans jour. Exactement ce que vous imagineriez si vous deviez en faire le scénario. L'inondation, le feu, la foudre, famine, sécheresse, tempête, maladie, les yeux, mains, estomac, peau, intestin, poumon, gorge, esprit, volonté, soucis, pensée. » Voilà, ça poisse, c'est l'apocalypse au sens premier du terme. Je trouve que ça me fait un peu penser aux univers des comics d'Alan Moore ou des Batman de Miller. On retrouve toujours un peu ces prédicateurs délirants et hallucinés qui sont dans les rues comme ça en train de gueuler sur la fin du monde. Et ça traduit, comme tu l'as dit Guillaume, sans doute assez bien l'esprit états-unien aujourd'hui reparti sans doute dans une nouvelle guerre. C'est vraiment assez magistral comme affaire.
Eh ben, je vous propose d'écouter après tous ces commentaires, d'écouter un deuxième extrait de The Austerity Program. Alors, ma culture religieuse m'empêche de j'imagine, c'est Joshua 7, 6, 26. Donc, ça doit être verset, chapitre 7, verset 6 à 26. Ça doit être ça. Donc, on écoute Joshua, chapitre 7, voilà.
First of all, and I will come clean, sweetest coat that you've ever fucking seen, making me look, oh. Now I'm a man who can be sold on a fat wedge of gold. To the wife, baby, let's live our life, 'cause daddy's home from those lonely nights away. I just want to say one more time about this coat. You just put it on, it was like money dripping right off you. You'd look at yourself, you'd be like,
he's dead. On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était Tatapoum, épisode 64. Tatapoum, l'émission de la discrimination positive. Ce soir, les Miss France, c'était donc Guillaume, Cédric, Mathieu, Héloïse, Marion et Bibi. Vous retrouvez la totalité des émissions et des références citées dans nos émissions sur le site de Tatapoum. Tatapoum sur un moteur de recherche, ça marche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Tatapoum. Bon courage pour ce qui vous reste à supporter dimanche. Ciao.